Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Ça va bien ? Merci d'être là. Il est 18h35. Tout le monde est là, à l'heure. Nickel. Pour ce nouveau rendez-vous, donc Pôle Info Santé, qui a été créé il y a 18 ans. Alors oui, je vais vous demander d'éteindre les portables. Ça tombe très bien. Vous l'avez fait exprès, monsieur. On a répété. Hein. On a répété. Ça fait donc 18 ans que ce rendez-vous existe, le Pôle Info Santé. C'est le fruit, en fait, d'un partenariat entre le CHU, dont l'une des missions premières est l'éducation à la santé, et puis l'Espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique. Vous le savez, l'objectif de ce rendez-vous, c'est de permettre au grand public d'échanger avec les professionnels de santé du milieu hospitalier et généraliste. Ça va ? Tout le monde a réussi à éteindre son portable ? Ça va aller ? Sinon, je peux vous aider. Nos intervenants vont se présenter dans un instant. Ils vont être là donc pour vous exposer le sujet du soir, du jour. C'est le canal carpien. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes concerné soit par le sujet, soit c'est un sujet qui vous intéresse. Donc vous pourrez bien sûr, à la fin, poser toutes vos questions à nos spécialistes qui seront là pour répondre. Je passerai avec mon micro. Il y aura aussi une hôtesse qui va passer pour vous tendre le micro. Attention juste à ne pas poser trop de questions. Enfin, les docteurs présents ne sont pas là pour vous soigner ce soir, donc ils sont là pour répondre à des questions générales. Il n'y aura pas de consultation privée, sinon on ne s'en sort pas, et puis ils n'ont pas tous les éléments du dossier, donc c'est un peu compliqué après pour eux. Les plus timides, parce que je sais qu'il y a des timides dans cette salle, vous pourrez poser vos questions sur papier, puisque dans le dossier qu'on vous a remis, le petit feuillet rose, il y a une feuille à l'intérieur, et vous posez vos questions, et puis discrètement, vous me les donnez. Moi, je les poserai ensuite au micro, il n'y a pas de problème. Vous avez donc entre les mains des documents pour compléter ce qu'on va vous dire ce soir. Il y a des photos, il y a plein de choses. Et il y a aussi une fiche d'évaluation. Alors, elle est très, très importante. J'insiste pour ceux qui viennent régulièrement à ce rendez-vous sur cette fiche d'évaluation, parce qu'elle nous permet à nous de répondre à toutes vos attentes, d'être vraiment au plus près en matière de temps, de questions, etc., d'échanges aussi. Donc n'hésitez pas à remplir cette feuille, il faut vraiment le faire, et vous pourrez la remettre à Christine ou à nos hôtesses donc à la sortie. C'est très important. Donc cette conférence va pouvoir démarrer. Le sujet, je vous le disais, c'est le canal carpien. Alors le canal carpien, c'est quoi ? Le dépistage, les facteurs du risque, également les traitements. Voilà donc quelques-unes des pistes de discussion que l'on va aborder ensemble ce soir donc, lors de cette rencontre. Bienvenue donc à cette 92e conférence Pôle Info Santé de l'Espace Mendès France. Je vais vous présenter maintenant donc nos trois intervenants. On va commencer avec le docteur Samuel Douteau, qui est au service neurochirurgie du CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir au docteur Morgane Frélon, du service d'orthopédie traumatologie du CHU de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le docteur Sarah Guilloton-Autureau, médecin généraliste à Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vais donc céder le micro au docteur Douteau, qui démarre cette conférence. Merci de votre présence.
Merci Francky Dardard de nous accompagner ce soir. Merci au service communication du CHU de Poitiers de nous proposer de cette communication sur le canal carpien. Merci à l'Espace Mendès France de nous accueillir. Et puis merci à vous d'être effectivement ici présent ce soir. Donc on va parler du canal carpien. Le canal carpien, si vous êtes ici, c'est effectivement soit vous connaissez des gens qui sont concernés par cette pathologie, soit vous-même vous êtes concerné, soit vous êtes renseigné un petit peu sur ce problème, et vous savez peut-être que c'est un problème qui se situe au niveau de la main. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a un problème du canal carpien, on a des douleurs au niveau de la main, et on sait que c'est dû à un problème au niveau du poignet. Ce soir, on va essayer de comprendre un petit peu plus précisément ce qui se passe au niveau de la main et du poignet, pourquoi on a mal, pourquoi il y a ces douleurs, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc effectivement, je m'appelle Samuel Houteau, je suis neurochirurgien au CHU de Poitiers, et donc moi, ma première présentation va s'orienter sur la compréhension des mécanismes qui aboutissent au syndrome du canal carpien. Après, le docteur Autureau parlera plus précisément du méthodologie de la diagnostic, comment diagnostiquer un canal carpien. Et puis le docteur Frélon va parler du traitement du canal carpien. Donc ce canal carpien, qu'est-ce que c'est ? Schématiquement, c'est la compression du nerf médian au niveau du canal carpien. Alors ça semble peut-être une lapadissade, mais on va essayer de redéfinir chacun de ces termes. Alors tout d'abord, un nerf. Un nerf, qu'est-ce que c'est ? Donc là, vous avez à gauche la coupe d'un nerf humain. Et en fait, ça s'approche beaucoup d'une gaine de fil électrique sur la droite de cet écran. En effet, vous allez avoir des axones, c'est les prolongements des neurones, qui vont être entourés d'une petite protection, la myéline, et qui vont se rassembler en fascicules. Et ces fascicules vont se rassembler en air, entourés d'une gaine plus importante. Et en fait, ça va être la même chose donc, que cette gaine électrique, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de petits fils de cuivre qui vont être rassemblés à l'intérieur d'une gaine en plastique. Ces différentes gaines en plastique vont être rassemblées à l'intérieur d'une gaine plus grosse, et ça va être exactement le même schéma. Donc quand vous comprenez comment fonctionne une gaine électrique, vous comprenez comment fonctionne un nerf humain. On voit comment c'est, à quoi ça sert. Le nerf va servir de communication entre le cerveau et puis la périphérie. Et il va avoir principalement deux fonctions. Il va avoir une fonction motrice et une fonction sensitive. Donc ça, c'est un point qui est important. Un seul nerf peut avoir deux fonctions dans la plupart des cas. Une fonction motrice, ça va partir du cerveau, qui est situé en haut de l'image, et ça va commander la motricité, la contraction des muscles. Donc ça va être du cerveau vers les muscles en rouge. Et puis vous allez avoir une information qui va aller dans l'autre sens, qui va aller de la peau pour la sensibilité fine, la sensibilité tactile, la douleur, et puis ça va remonter par la moelle et ça va aller également au niveau du cerveau. Donc voilà à quoi sert le nerf. Ensuite, j'ai parlé du nerf médian. Le nerf médian, c'est un des nerfs qui va venir innerver le membre supérieur. Donc il va débuter au niveau du moignon de l'épaule, il provient des racines de la colonne cervicale, et puis il va passer à l'intérieur du bras, puis il va arriver au niveau de l'avant-bras, et il va passer au milieu de l'avant-bras. Et alors, on n'a pas été extrêmement original, on l'a appelé nerf médian parce qu'il passe au milieu de l'avant-bras. Et au niveau de l'avant-bras, il va y avoir quelques fibres qui vont aller au niveau des muscles. Les muscles, par exemple, de l'avant-bras qui vont être innervés par le nerf médian, ça va être les muscles pour fléchir les doigts ou faire ce qu'on appelle de la pronation, c'est-à-dire orienter la main vers le sol. Et puis, ce nerf médian qui passe ici, je vais quand même vous le présenter, il va arriver au niveau de la paume de la main. Et c'est à partir de là où ça va nous intéresser dans le canal carpien. Vous voyez, il arrive là, donc c'est ce qui est en violet. Ce qui est en jaune, là, c'est un tendon. Donc, il va se diviser au niveau de la paume de la main en quatre nerfs principaux. Et la fonction de la sensibilité, la partie sensitive du nerf médian, va permettre d'innerver les trois premiers doigts plus la moitié du quatrième doigt au niveau de la face palmaire. Donc, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Et puis, au niveau de la face dorsale, il va innerver la sensibilité de la partie distale également des trois premiers doigts, puis une moitié du quatrième doigt. Donc ça, c'est la partie sensitive, la fonction sensitive du nerf médian. Il va également avoir une fonction motrice, ce nerf médian, au niveau de la paume de la main. Vous voyez, il y a une petite branche qui se décoche à ce niveau-là, et qui va venir innerver ce qu'on appelle l'éminence sténar. C'est un bien grand mot. En fait, l'éminence sténar, c'est la portion charnue que vous avez au niveau du pouce. D'accord ? Et ce nerf ne va pas innerver tous les muscles de cette éminence sténar, il va en innerver quelques-uns, particulièrement le nerf opposant, c'est-à-dire c'est celui qui va permettre d'opposer votre pouce avec les autres doigts de la main. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu comment était un nerf, comment fonctionnait un nerf, à quoi il servait, et quel était le nerf médian, donc le nerf qui est touché dans le syndrome du canal carpien. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a autour du canal carpien, justement. Donc tout d'abord, on va parler du carpe. Syndrome carpien, on parle de carpe. Alors, ça n'a rien à voir avec le poisson, la carpe, évidemment. Le carpe, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'articulation qu'il y a entre les deux os de l'avant-bras et les os de la main. Les os de la main, c'est les métacarpiens, d'accord ? C'est ce qu'on touche ici. On le voit ici sur cette gravure. Ça, c'est les métacarpiens, les os de la main. Et le carpe est situé donc au niveau du poignet. Il est constitué de deux rangées d'os qui vont s'articuler entre eux. Il y a une mécanique qui est très complexe et qui va permettre de transmettre les mobilités entre l'avant-bras et la main. D'accord ? À noter d'ailleurs qu'en 1350, ils ne s'embêtaient pas avec ces détails. Vous pouvez constater, ils n'avaient pas dessiné le carpe. C'est plus facile. Donc ça, c'est la partie, c'est le contenant et c'est la partie osseuse. Et là, si on regarde le canal carpien de face, j'ai envie de dire, là, vous avez les métacarpiens, donc c'est la main. Là, vous avez le carpe dont je vous ai parlé. Et le canal carpien, c'est quoi ? C'est un tunnel qui va être complété par une bandelette fibreuse, c'est le rétinaculum des fléchisseurs. Le rétinaculum des fléchisseurs, c'est ce qui est en vert, et c'est ce qui va fermer, donc, qui va former le canal carpien, dans lequel se trouve le nerf médian, dont on a parlé juste avant. Et le souci, c'est qu'il n'est pas tout seul, le nerf médian. Il est en noir, il a changé de couleur. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres choses dans ce canal carpien. Principalement les tendons fléchisseurs des doigts. Et les tendons fléchisseurs des doigts, pour qu'ils coulissent bien à l'intérieur du canal carpien, il y a un système de gaines, c'est ça, de gaines de synoviale, on dit, qui permettent de faciliter la mobilité de ces gaines de tendons dans le canal carpien. Et le souci, c'est que ces tendons et ces gaines peuvent augmenter de volume. Et si vous augmentez de volume dans un contenant qui est limité, le carpe et puis le ligament ne peuvent pas augmenter de taille, donc il va y avoir une augmentation de la pression. Et c'est ça qui entraîne le syndrome du canal carpien dont je viens de vous parler. L'augmentation de la pression dans le canal carpien, ça entraîne la compression du nerf médian et donc le syndrome du canal carpien. Donc on va voir un petit film en trois dimensions qui permet de un peu mieux voir les choses. Et de façon assez extraordinaire, pour une fois ça passe. Donc là vous voyez ce canal carpien, ce rétinaculum des fléchisseurs, le carpe dont je viens de vous parler, les tendons des fléchisseurs, le nerf médian en jaune, il a encore changé de couleur, les gaines de synoviale qui vont être dessinées donc en bleu, et puis tout ce petit monde, en fonction de la mobilité, d'utilisation du poignet, avec l'âge, avec différents facteurs favorisants et différentes causes, ils peuvent augmenter de volume, comme je viens de vous le dire. Et en augmentant de volume, ce qui doit arriver arrive. Vous avez une compression du nerf médian ici, et donc une douleur qui survient dans le territoire de ce nerf médian. Qu'est-ce que ça va entraîner comme symptômes ? Les symptômes vont dépendre directement de l'importance de la pression qu'il y a dans ce canal carpien. Donc au début, il y a un peu de pression, vous pouvez le constater ici, et donc le nerf médian va être un petit peu comprimé. Il va être comprimé quand ? Il va être comprimé principalement la nuit et le matin. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous avez le plus de pression dans le canal carpien. Quand vous dormez, vous avez de l'œdème, ça gonfle, et donc il y a une augmentation qui est transitoire la nuit, de la pression dans le canal carpien, et donc les symptômes vont apparaître principalement la nuit. Et puis le nerf, il va être un petit peu comprimé, pas trop, puisque c'est le début, il y a une petite augmentation de la pression, et donc il va juste vous signifier qu'il y a une augmentation de pression, donc vous allez ressentir juste des picotements. Donc ça, c'est la première étape du canal carpien. Vous allez ressentir les picotements où ça ? Là où le nerf médian innerve la sensibilité. Donc, là où on voyait la partie bleutée sur la main, c'est-à-dire les trois premiers doigts, puis la partie, une moitié de doigt du quatrième doigt. Et puis vous allez augmenter la pression dans votre canal carpien. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement la pression va être élevée la nuit, mais également le jour. Donc il n'y aura plus un rythme purement nocturne. Et puis les picotements, ils vont se transformer en douleur. C'est-à-dire que le nerf, il commence à souffrir beaucoup plus. Donc le message qu'il va vous envoyer, c'est un message d'alarme. Je suis comprimé, j'arrive pas bien à fonctionner, donc je vous fais mal. Donc c'est un message d'alerte. Et puis, il va fonctionner encore moins bien, et non seulement ça va vous faire mal, mais en plus, la sensibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir ressentir, par exemple, le contact avec la table, ou le fait d'avoir mal, eh ben, il va moins bien transmettre cette information. Donc vous allez toucher dans le territoire du nerf médian, puis vous allez moins bien sentir. On parle d'hypoesthésie. Et si vous augmentez encore la pression, on arrive au troisième stade, vous avez la même pu de sensibilité, on parle d'anesthésie, c'est-à-dire qu'on touche la peau et globalement vous ne sentez quasiment rien. Et puis, on avait oublié la petite branche ténarienne, la branche qui venait innerver les muscles, la motricité du nerf médian. Et quand il est très très comprimé, et bien il va commencer à y avoir une diminution de la force des muscles qui sont innervés par ce nerf médian. Et donc vous allez avoir une diminution de la force motrice, comme on dit, et donc vous avez moins de force pour opposer votre pouce avec vos autres doigts. Donc ça, c'est les premiers signes d'alarme. Et puis ça peut aller, si la pression augmente encore, à une amyotrophie ténarienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos muscles ne sont plus du tout innervés. Et qu'est-ce qui se passe quand un muscle n'est pas innervé ? Eh bien, il s'atrophie, donc on parle d'amyotrophie. Et puis vous voyez par exemple cette image qu'on voyait initialement, avec ce creux au niveau de l'éminence ternaire, alors que normalement, on n'en a pas. Donc voilà les différents symptômes et les différents stades en fonction de la pression qui existe dans votre canal carpien. Alors maintenant, on va parler des causes. Pourquoi on a un canal carpien ? La plupart du temps, c'est idiopathique. Ce n'est pas une injure, ça ne qualifie pas la personne qui a un canal carpien, ça veut dire juste qu'on ne connaît pas la cause. Il y a certains facteurs favorisants. On sait que les femmes vers 50 ans à la ménopause ou lorsqu'on a une grossesse, eh ben on peut avoir un syndrome du canal carpien. Donc il y a probablement des facteurs hormonaux. Il y a également des facteurs traumatiques, que ce soit professionnel, que ce soit une déformation due à une fracture du poignet. Il peut y avoir également une fragilité initiale du nerf médian par différentes pathologies, par exemple du diabète. Il peut y avoir des causes plus générales, c'est-à-dire pas des causes juste au niveau du canal carpien, mais une maladie qui touche tout l'organisme, comme des causes endocriniennes, une hypothyroïdie, un diabète. Vous pouvez avoir des pathologies qui entraînent une inflammation des gaines synoviales, vous savez, c'était ce qui était en bleu dans le film, polyarthrite, lupus, bon, le terme, c'est pas très très important. Et il peut y avoir également des maladies de surcharge, en fait, c'est des petits dépôts qui vont aller un peu partout dans l'organisme, dont au niveau du canal carpien, puis ça peut entraîner ce genre de pathologie. Donc voilà les différentes causes qu'on peut retrouver dans le cadre d'un canal carpien. Donc pour finir ma présentation, globalement, ce qu'il faut que vous reteniez en rentrant chez vous, c'est maintenant je sais qu'un syndrome du canal carpien, c'est une compression du nerf médian au niveau du canal carpien. D'accord ? Merci.
Donc on va continuer maintenant, étant donné que vous avez vu comment ça fonctionnait un canal carpien, sur la manière de faire le diagnostic. Donc le docteur Doutot en a déjà parlé un petit peu, il y a certaines choses qui vont être un petit peu redites, mais comme ça vous serez sûr de l'avoir bien retenu ce soir quand vous rentrerez chez vous. Donc l'examen clinique, on en parlait tout à l'heure, la présence de signes principaux, c'est les fourmillements et les engourdissements au niveau des doigts. Donc dans le territoire qui, là, dans ma partie, est rose et non plus bleu comme tout à l'heure, c'est le territoire sensitif du nerf médian. Donc ces engourdissements, ces fourmillements que les gens ressentent, effectivement, ils le ressentent principalement la nuit. Effectivement, ces signes gênent les gens. Ils sont obligés de secouer la main pour faire passer ces signes-là. Donc ça les réveille, ça les gêne, et souvent c'est le principal motif de consultation. Quand ils viennent nous voir au cabinet médical en nous disant « voilà docteur, je me plains la nuit, ça me réveille, ça me fait mal, j'ai des fourmis dans les mains ». Donc souvent, dans une deuxième étape, le fourmillement devient douloureux et il peut remonter plus haut dans le bras, au coude, à l'épaule notamment. Et dans un deuxième temps, quand les choses évoluent un petit peu, on peut avoir donc une diminution de la sensibilité et éventuellement ce qu'on appelle une maladresse. Donc les gens vont se plaindre d'avoir du mal à boutonner leur bouton de chemise, parfois même dans un stade plus évolué, à lâcher des objets, échapper des tasses, échapper. Ça correspond à des troubles de la sensibilité principalement. Alors, lors de notre examen clinique, comment ça se passe, nous, au cabinet médical ? Les gens donc, se sont plaints de leur fourmillement, de leur engourdissement. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de reproduire les signes cliniques, c'est-à-dire reproduire les fourmillements, la gêne que les gens ressentent chez eux. Alors, on a deux tests pour reproduire ça. On a un premier test, un test en percussion. Alors, on tape ici sur la face antérieure du poignet. Ça, on recherche un signe qui s'appelle le signe de Tinel. Et on essaye de reproduire effectivement la survenue des fourmillements. Le deuxième test, on met les gens, on leur fait fléchir le poignet comme ça. Et on recherche un signe qui, là, s'appelle le signe de Fanel. On considère que ce test-là est positif à partir du moment où les fourmillements apparaissent dans les 30 secondes qui suivent la mise en position en flexion. Donc ça, c'est les deux premiers signes cliniques qui nous permettent de nous orienter vers de confirmer ce que les gens pensent. Ils disent « Docteur, je pense que j'ai un canal carpien, dites-moi ce que vous en pensez ». On étudie par la suite donc la sensibilité pour voir si les gens, comme le docteur Douto vous le disait tout à l'heure, se plaignent effectivement de moins bien sentir les choses. Et puis on recherche également une atteinte, donc ça c'est souvent dans les tableaux un petit peu plus sévères, une atteinte des muscles. Donc vous voyez toujours le même dessin avec ce qu'on appelle l'amyotrophie de l'éminence sténar, où effectivement il y a une fonte musculaire. On recherche également la présence de points douloureux au niveau de l'avant-bras, notamment. Donc un premier point ici qui correspond au passage du nerf radial. Là, on est sur le trajet du nerf radial qui est un des autres nerfs qui passe dans l'avant-bras. Ici, on est sur un point douloureux toujours au niveau du nerf médian. Et puis on recherche également un point douloureux au niveau du coude. Là, on est sur le trajet du nerf ulnaire. Pourquoi on recherche ces points douloureux-là ? Tout simplement parce que quand on a un canal carpien, on peut avoir une sensibilité, on va dire, un petit peu exacerbée de l'ensemble des nerfs de l'avant-bras. Ça, c'est important les gens ne s'en sont pas forcément rendus compte, mais c'est un des signes importants qui confirme un petit peu notre diagnostic. On peut également rechercher d'autres points douloureux, donc au niveau de l'épaule et au niveau du cou. Ça, c'est important pour faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, c'est être sûr qu'on soit bien dans ce tableau-là, parce qu'il y a une autre maladie, ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale, qui donne un petit peu les mêmes signes cliniques, c'est-à-dire des fourmillements, des douleurs, des choses comme ça, mais qui là correspond plus en fait à une souffrance du nerf plus haut situé. La souffrance à ce moment-là du nerf, elle se fait au niveau du rachis cervical. Donc c'est important qu'on ne propose pas un traitement aux gens pour un tableau qui ne serait pas le bon. Alors les formes cliniques, quelles sont-elles ? On en a différentes. La forme la plus fréquente, c'est effectivement la forme idiopathique. C'est les femmes qui sont principalement touchées dans 75% des cas, souvent la femme d'une cinquantaine d'années. Ces femmes-là souvent se plaignent des deux bras, souvent les deux côtés sont touchés, mais de manière asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus important que l'autre. Les gens se plaignent des deux côtés. On a des formes tardives, donc là souvent la tranche d'âge, les gens sont plus âgés. Souvent on a des formes plus sévères avec une atteinte de la sensibilité et une atteinte motrice. Et la gêne ressentie est moindre. Souvent ce sont des formes qui sont évoluées, c'est-à-dire que les gens ont laissé traîner les choses, ils ont eu des fourmillements, ils ont eu des engourdissements initialement, ils ont laissé passer les choses et dans un deuxième temps sont survenus les troubles de la sensibilité et l'atteinte musculaire. Donc ça correspond vraiment à des formes beaucoup plus évoluées. Alors, les formes cliniques, on en parlait tout à l'heure. Une forme qu'on voit assez fréquemment, c'est la forme pendant le syndrome du canal carpien pendant la grossesse, souvent au cours du troisième trimestre de la grossesse, qui est en fait lié à la présence d'œdème, et c'est l'œdème qui explique la compression du nerf médian. Dans ces situations-là, le tableau régresse effectivement avec l'accouchement, puisque l'œdème disparaît au moment de l'accouchement. On a quelques formes d'emblée brutales, qui là effectivement, on oublie la femme de 50 ans, on oublie le côté bilatéral et asymétrique. En fait, souvent ces formes brutales sont assez douloureuses et seront souvent associées avec une atteinte motrice, c'est-à-dire que le muscle ne fonctionne pas bien. Souvent on a une cause locale à ces situations-là quand les formes sont très brutales. Vous pouvez voir là sur ce dessin ici, au bout de la flèche verte, vous avez un petit kyste qui va aller appuyer sur le nerf médian. Donc ce kyste-là comprime directement le nerf médian, et c'est ce qui explique la douleur d'emblée brutale et l'importance de l'atteinte motrice. Donc on a effectivement, c'est une pathologie qui peut rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle. Pour que ce soit pris en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle, il faut que la personne qui souffre de ce canal carpien-là fasse de manière répétée des mouvements en fait, au niveau du poignet et qui en fait, provoque en fait, une inflammation au niveau des tendons et du coup la compression du nerf médian. Alors, comment est-ce qu'on fait pour confirmer notre diagnostic ? Une fois que nous, on a dit aux patients, effectivement, votre tableau, ça ressemble fort à un syndrome du canal carpien, maintenant, il faut qu'on confirme notre diagnostic. Pour confirmer notre diagnostic, on a un examen à notre disposition qui s'appelle l'électromyogramme. C'est un examen qui est obligatoire pour la suite de la prise en charge et en particulier pour la prise en charge thérapeutique. Le but de l'électromyogramme, c'est quoi ? C'est d'une part de confirmer ce qu'on avait pressenti d'une manière clinique, c'est-à-dire confirmer le canal carpien, évaluer sa sévérité. Ça veut dire, est-ce qu'effectivement le nerf il est comprimé de manière légère ou de manière plus sévère ? C'est également éliminer une autre localisation, être sûr que le nerf il est bien comprimé au niveau de son passage dans le canal carpien. Et puis, c'est rechercher une atteinte nerveuse d'un autre nerf de l'avant-bras. Alors, un électromyogramme, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Le principe de l'électromyogramme, c'est d'enregistrer la vitesse de conduction nerveuse. On envoie un influx électrique d'un point de départ et on analyse combien de temps l'influx électrique met de temps pour arriver au point distal. Et à partir du temps que l'information électrique a mis pour parvenir du point initial au point final, on se dit oui ou non, il y a eu un allongement du temps de conduction. D'accord ? Ou bien parfois, même dans les situations les plus sévères, un blocage de la conduction. Et puis ça nous permet évidemment d'évaluer la gravité s'il y a une atteinte motrice, c'est-à-dire que si le nerf ne peut plus envoyer d'information jusqu'au muscle. C'est important l'électromyogramme parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la gravité de l'atteinte et la symptomatologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut très bien avoir assez peu de signes cliniques, c'est-à-dire que les gens peuvent très bien ne pas souffrir réellement et malgré tout avoir un canal carpien sévère. Donc l'électromyogramme, il est vraiment indispensable pour confirmer notre diagnostic et puis également pour apprécier l'importance de la rapidité de la prise en charge qui est nécessaire pour ces patients-là. Alors, quels examens complémentaires on peut faire par ailleurs ? Est-ce que les radiographies sont nécessaires ? Non, elles ne sont pas nécessaires. On a vu tout à l'heure que le nerf il passe sous la gaine. La radio ne nous apportera pas d'informations complémentaires. L'IRM non plus. Et l'échographie non plus. C'est principalement un diagnostic clinique. C'est les informations qu'on va avoir lors de notre examen clinique au cabinet médical. Et puis l'électromyogramme qui vont nous apporter des informations. Donc pas de radio, pas d'IRM, pas d'échographie. Là, on est bien d'accord que ces examens-là, ils ne sont pas nécessaires dans la mesure où on est face à un tableau classique. Pas de critères que tous les signes cliniques qu'on a concordent bien avec le diagnostic qu'on fait habituellement. Donc en conclusion, un syndrome du canal carpien, c'est quoi ? C'est des fourmillements, un engourdissement dans les doigts, souvent la nuit, qui peut s'accompagner d'une diminution de la sensibilité. Souvent, le tableau le plus fréquent, c'est la femme d'une cinquantaine d'années, sans véritablement de cause retrouvée. Et le seul examen nécessaire pour confirmer notre diagnostic, c'est l'électromyogramme. Je vous remercie.
Donc maintenant, après avoir vu donc comment fonctionnait, quel était le problème dans le canal carpien et comment faire le diagnostic, on va parler des différents traitements. Alors tout d'abord, est-ce qu'il faut traiter un canal carpien ? On a vu que l'évolution naturelle de la compression du nerf dans le canal carpien était l'aggravation des lésions, des simples fourmillements jusqu'à l'atrophie des muscles. Donc oui, il faut traiter le canal carpien si on ne veut pas arriver à un stade beaucoup plus grave. Alors on a vu que le canal carpien, c'était quoi ? La symptomatologie était due à la modification des conditions. Elle était due à une augmentation donc, du volume du contenu dans le contenant et que tout ça, ça augmentait la pression et la compression du nerf médian. Donc le but du traitement, ça va être de diminuer cette pression dans le canal carpien. Donc on a deux types de traitements possibles. On a un traitement médical et un traitement chirurgical. Donc le traitement médical, c'est quoi ? C'est essentiellement l'infiltration. L'infiltration, ça consiste à injecter des corticoïdes au niveau du canal carpien. Donc on fait une piqûre juste au-dessus du poignet pour injecter des corticoïdes dans le canal carpien. Le but est donc de diminuer par l'effet anti-inflammatoire des corticoïdes le volume, notamment des tendons fléchisseurs, pour diminuer les symptômes. Donc généralement, après l'injection, on a une petite augmentation des symptômes parce que finalement, on a injecté du liquide dans le canal carpien qui est déjà un peu comprimé. Mais au bout de quelques jours, la symptomatologie va disparaître, va diminuer. Le problème des infiltrations, c'est que l'efficacité, elle est temporaire et que dans 3/4 des cas, les symptômes vont revenir plus ou moins rapidement. Qu'est-ce qu'on peut proposer également ? On peut proposer des attelles de poignet. Généralement, elles sont en association avec l'infiltration. On les propose souvent la nuit parce qu'elles sont mal tolérées la journée. La nuit, le but est d'essayer de diminuer les fourmillements nocturnes en évitant que les patients plient le poignet la nuit, mais ça ne règle pas le problème de la pression dans le canal carpien et donc ce n'est pas un traitement thérapeutique. Donc, voilà. Le traitement de référence reste donc le traitement chirurgical puisque c'est lui qui va permettre de diminuer la pression dans le canal carpien et ça de façon définitive. Le geste de base, ça va être d'ouvrir le ligament qu'il y a devant. Donc, c'était le rétinaculum. Le ligament qui est devant, le but, ça va être de l'ouvrir. La chirurgie va permettre de le faire soit à ciel ouvert, soit sous endoscopie. On verra un petit peu les deux techniques. Donc, on voit bien le but, c'est vraiment de passer de ce type-là de canal carpien avec le ligament qui écrase le nerf à un ligament qui est ouvert et qui va permettre de libérer le nerf. Alors ce type de chirurgie, ça se fait en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi, et sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous endormir complètement, on n'endort que le bras, ce qui permet un retour dans la chambre plus rapide, qui est beaucoup plus simple pour le patient. Alors, tout d'abord la technique à ciel ouvert, puisque finalement c'est la plus ancienne. On pratique une incision dans la paume de la main. Cette incision, elle est faite en regard du ligament. Le but est bien sûr d'ouvrir le ligament antérieur du carpe. Initialement, on faisait des incisions qui étaient de l'ordre de 3 à 4 cm, mais de plus en plus, ces incisions sont diminuées en taille pour faire de l'ordre de 15 à 20 mm, ce qui est suffisant quand même pour ouvrir le ligament. Donc on va disséquer progressivement jusqu'au ligament et on va ouvrir ce ligament sous contrôle de la vue dans toute sa longueur. Donc, finalement, alors, avec les petites incisions, il n'y a que l'opérateur qui voit. Et on se retrouve dans ce tableau où là, on voit le ligament qui est ouvert avec un petit bout de tendon qui est visible dessous. Et on peut visualiser l'ouverture complète du canal carpien et la libération du nerf. L'intérêt également, c'est de pouvoir inspecter l'intérieur du canal carpien et de visualiser l'ensemble des éléments du canal carpien pour éventuellement traiter une cause si on a une malformation, s'il y a une cause intracarpienne qui permet d'expliquer le canal carpien. Ça permet également de reconstruire le ligament et notamment de traiter dans le cas des récidives avec des reconstructions ligamentaires et des petits lambeaux pour protéger le nerf. La deuxième technique, qui est un peu plus récente, c'est la technique endoscopique. Il y a deux méthodes principalement, une méthode avec une voie d'abord, une méthode avec deux voies d'abord. La plus fréquente en France, c'est celle avec une voie d'abord. Donc on va faire une petite incision juste au-dessus du pli du poignet, juste là. Et avec ce petit système de pistolet, on va rentrer à l'intérieur du canal carpien pour pouvoir voir le ligament par en dessous. Et du pistolet, il y a un petit crochet qui va sortir qui va permettre de couper le ligament. Donc la vue qu'on voit avec le pistolet, en fait, cette partie-là, c'est la partie du ligament qu'on voit par-dessous. Et progressivement, après avoir bien visualisé le ligament, on va pouvoir donc commencer à le couper dans toute sa longueur. Donc on voit là l'incision qui commence à être faite, avec une petite lame qui sort de ces deux petites berges métalliques. Et donc, voilà, on arrive à ça avec un système où le ligament est ouvert et s'est élargi avec une petite boule de graisse qui va descendre et qui va nous montrer que le ligament est complètement ouvert. Alors, la deuxième technique, c'est le même principe, c'est d'ouvrir le ligament avec un système d'endoscopie pour voir le ligament par en dessous, à la seule différence que là, on fait deux voies d'abord. Une pour mettre la caméra et une pour faire passer le couteau. Alors, comment sont les suites après l'intervention ? Le but, on va demander aux patients de mobiliser activement les doigts de façon immédiate pour justement éviter toutes les raideurs possibles. On peut leur proposer de porter une petite attelle pour justement éviter les mouvements de flexion de poignet dans les premiers jours à but antalgique, mais pas plus d'une dizaine de jours pour éviter d'enraidir le poignet. D'un point de vue clinique, qu'est-ce qui va se passer? Les fourmillements nocturnes vont disparaître la première nuit, puisque ça correspond aux symptômes, les premiers symptômes ressentis par les patients. Donc normalement, la première nuit, les fourmillements vont disparaître. Et progressivement, les lésions donc plus sévères, qui correspondent à la perte de sensibilité des doigts, et notamment l'atrophie musculaire, tout ça, ça va mettre un petit peu plus de temps, parce que ça correspond à des lésions plus graves. Alors, quelle que soit la technique, il y a pendant un mois et demi, une douleur dans la paume de la main qui correspond finalement à la cicatrisation du ligament. Le ligament, on l'a laissé ouvert pour justement libérer le nerf. À partir du moment où le ligament est laissé ouvert, il va cicatriser. Il met un mois et demi en moyenne pour cicatriser. Il faut compter un mois et demi de douleur au niveau de la paume de la main. On a également une petite perte de force qui récupère en 3 mois. Et en règle générale, l'arrêt de travail qu'on donne aux patients est de l'ordre de 1 mois. Alors, est-ce que la chirurgie du canal carpien est exempte de complications? Ben non, parce que même si la chirurgie du canal carpien a été banalisée, ça reste de la chirurgie, donc il y a des complications. Alors, elles arrivent quelle que soit la technique. Heureusement, elles sont rares. Les récidives, c'est très rare. Les lésions nerveuses également, tout ça si la technique est bien, si le chirurgien connaît bien sa technique, il n'y a pas de problème. Ce qui est plus embêtant, parce que finalement c'est une complication qui est non prévisible, parce qu'on n'a pas d'examen à l'heure actuelle qui permette de savoir si les patients vont la faire ou pas, c'est ce qu'on appelle l'algodystrophie. Alors c'est quoi? C'est une réaction du corps à la chirurgie. Le corps va réagir de façon excessive. Et ça peut donner des raideurs. Ça peut être, c'est embêtant parce que ça peut être plus ou moins long, ça peut être plus ou moins grave. Mais à l'heure actuelle, on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas de moyens pour prévoir ça. Ça peut arriver également quand on se cogne. Donc c'est vraiment une réaction du corps à l'acte chirurgical que le corps vit ça comme une agression. La seule chose à l'heure actuelle qu'on peut donner, c'est de la vitamine C avant l'intervention et après l'intervention, qui diminue le risque de survenue de cette complication, mais qui malheureusement, à l'heure actuelle, ne permet pas de la faire disparaître. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le traitement chirurgique, le but du traitement dans le canal carpien, c'est d'éviter l'aggravation des lésions et éviter qu'on se retrouve avec des lésions extrêmement sévères, de perte de sensibilité et de diminution de la force de la main. Que le traitement médical peut être effectué, mais généralement, il a une efficacité transitoire dans 3/4 des cas, et que le traitement qui permet de se débarrasser entre guillemets du canal carpien, c'est le traitement chirurgical, et qu'il soit fait à ciel ouvert ou sous endoscopie, le but étant le même, de libérer le nerf en ouvrant le ligament. Les suites à l'heure actuelle sont identiques dans les deux traitements. Voilà, je vous remercie.
Voilà, merci à vous trois pour la clarté de vos explications et vos images aussi qui nous ont bien aidés. Alors, la première question, je vais la poser avant de vous donner la parole au docteur Sarah Guilloton-Othureau. On a vu dans votre PowerPoint Claire Chazal, ça veut dire que c'est une de vos patientes et qu'elle souffre d'un problème de canal carpien?
Si je vous dis oui, est-ce que vous me croyez?
Je ne sais pas, mais en tout cas,
la réponse est non.
Fait peur, en tout cas. Non, ça va?
C'est non.
Elle va bien, bon, parfait. Vous voilà rassurée, Claire Chazal va bien. Une question, alors j'entendais autour de moi, il y a une question qui est venue, est-ce que c'est un facteur génétique quelque part ou pas? Est-ce que c'est héréditaire ou pas? Qui répond?
À l'heure actuelle, on n'a pas de réponse sur
c'est
ça.
Bien, la première question est une question piège.
C'est une belle question piège.
D'accord.
Non, on n'a pas de sur le caractère génétique, on n'a pas de trouver de famille à canal carpien ou c'est pas
Il y a des facteurs favorisants. Donc, on disait par exemple le fait d'être une femme, 50 ans, différentes pathologies. Mais sur le plan génétique, non, a priori, il n'y a aucun lien.
Est-ce que ça touche plus une main qu'une autre ou pas ?
Mais dans le cadre d'une pathologie professionnelle, effectivement, là oui. Après, c'est plus la main qui est sollicitée souvent.
Et est-ce qu'avec l'évolution du matériel informatique, etc., on voit plus de problèmes de canal carpien à cause de ça ? On vous parlait tout à l'heure de certaines professions. J'imagine que les secrétaires, etc., qui utilisent souvent des claviers, sont plus sujettes à ce genre de problèmes. Donc, est-ce qu'avec l'évolution des technologies et de l'utilisation du matériel, eh bien, on voit une évolution également de la maladie ?
Effectivement, le canal carpien fait partie des troubles musculo-squelettiques. C'est pas un acronyme, mais ça rassemble effectivement différentes pathologies articulaires dues à la mobilisation excessive de ces articulations, en particulier dans le cadre du travail. Et donc, ça peut rentrer effectivement dans le cadre de ces maladies, de ces troubles musculo-squelettiques. Après, effectivement, il y a certains outils qui ont été développés, en particulier l'outil informatique avec le clavier, qui peut entraîner l'utilisation de ses doigts dans une position en extension du poignet, qui va pouvoir favoriser l'apparition d'un syndrome du canal carpien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait partie des pathologies qui peuvent être des maladies professionnelles.
D'accord, merci pour vos réponses. Est-ce que quelqu'un a une question ? Voilà, alors... Eh bien, on va commencer par madame et puis je viendrai vers vous après.
Comment vous expliquez, en fait, vous dites que les récidives sont rares, et comment vous pouvez expliquer que ça puisse survenir de nouveau ?
Alors, après, il y a deux problèmes. Il y a la première question, et c'est pour ça qu'on a insisté dans le diagnostic de l'ensemble des nerfs qui peuvent être douloureux. Donc il y a la première chose, il y a la récidive qui est ressentie par le patient, c'est-à-dire ou carrément la non-réussite de l'intervention, mais qui correspond pas à la non-libération du nerf, mais qui correspond à des douleurs d'autres nerfs, et notamment les douleurs qui peuvent venir du cou. Ça, c'est déjà la première chose. Et après, dans la récidive vraie, c'est-à-dire le nerf qui a été complètement libéré et qui se recomprime, mais de façon objective, avec un électromyogramme qui confirme bien de nouveau la compression du nerf. C'est pour le coup, c'est très rare. Et quand ça arrive, on n'a pas à l'heure actuelle de données précises là-dessus, mais on peut penser que c'est secondaire à des libérations insuffisantes initialement du canal carpien. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir de façon suffisante le ligament, et donc on va avoir une sédation des douleurs, et on peut avoir après de nouveau une recrudescence des symptômes, mais ça peut être dû à une autre pathologie, comme toutes les pathologies qui peuvent donner des canaux carpiens.
Ça va dépendre également de l'évolution du syndrome du canal carpien lorsqu'il y a la chirurgie. C'est-à-dire que si vous allez opérer un canal carpien tôt dans son évolution, au stade où il y a entre guillemets juste des picotements, l'évolution après la chirurgie a de grandes chances d'être bonne. Si vous opérez ce même syndrome du canal carpien, mais après une évolution bien plus longue, où il y a des lésions intranerveuses bien plus importantes, les suites post-opératoires seront probablement moins bonnes, et il peut persister les symptômes douloureux ou la diminution de la force musculaire longtemps.
Merci. On va. J'arrive tout de suite, monsieur. Il y a madame d'abord. Tout à l'heure, je vous précisais que vous évitiez évidemment c'était pas une consultation, hein, mais si vous avez quand même des problèmes, si vous êtes confronté au problème, vous pouvez de façon générale évoquer votre problème, évidemment. Nos trois docteurs sont là pour vous répondre. Je vais tenir le micro.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble avoir compris qu'il y avait plusieurs nerfs qui pouvaient passer dans cet endroit-là. Est-ce que l'opération libère effectivement tous les nerfs ou juste le nerf médian ? Je n'ai pas bien saisi.
Non, dans le canal carpien, il n'y a que le nerf médian. Donc l'intervention consiste à libérer le nerf médian.
Voilà. Ah, vous avez une deuxième question. Attends, ah, pendant que je suis là.
Oui, vous avez dit aussi que les douleurs pouvaient venir des cervicales et non pas du canal carpien. Comment on différencie les deux, justement?
Mais, bon, d'une part, effectivement, sur une névralgie cervico-brachiale, on peut avoir une douleur qui est identique au niveau de la main. Par contre, on peut aussi avoir une douleur, d'une part, au niveau du rachis cervical, et puis un trajet douloureux qui part du cou et qui descend le long de l'épaule, le long du bras et le long de l'avant-bras pour aller jusqu'à la main. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, dans ce cas-là, l'intérêt de l'électromyogramme, parce que l'information que l'électromyogramme nous donne sur le ralentissement de la conduction électrique ne sera pas la même selon qu'il s'agisse d'un canal carpien ou d'une névralgie cervico-brachiale.
Monsieur au fond.
Oui, bonjour. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que vous avez précisé qu'il y avait rarement de récidive. Je dois être un cas probablement très particulier. Je me suis donc fait faire un diagnostic du canal carpien. Ça nécessitait une intervention chirurgicale. La dite intervention chirurgicale était préconisée avec un arrêt de travail de 3 semaines en ce qui me concerne, que j'ai suivi un petit peu la lettre. À l'issue de ces 3 semaines, j'avais toujours non plus la même douleur, une seule douleur au petit doigt. Donc on m'a diagnostiqué que ce n'était non plus le canal carpien, mais le cubital. On m'a dit que ça nécessite une autre intervention chirurgicale. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. Je me suis fait faire donc une seconde intervention chirurgicale pour le cubital. La première était une anesthésie locale, la seconde était une anesthésie totale. J'avais espoir qu'à l'issue de ma seconde intervention, j'allais pouvoir enfin être libéré de cette main, et j'ai toujours la même douleur. Ça peut s'expliquer par quoi?
Alors pour généraliser un petit peu la question, oui. C'est un peu ce qu'on vient de dire précédemment. C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'une chirurgie soit efficace, il faut être sûr, premièrement, d'avoir fait le bon diagnostic, donc de proposer le bon traitement. Donc c'est vrai que des fois, il peut y avoir un problème par rapport à ça. Deuxième point, lorsqu'on fait l'opération, il faut qu'elle fonctionne de façon optimale, il faut qu'elle soit réalisée de façon optimale, et il peut y avoir des différences de résultats. Et puis, ça va dépendre, si tous ces deux précédents critères sont remplis, entre guillemets, ça va dépendre également du stade d'atteinte du nerf lorsqu'on fait l'opération. Donc en fonction de ces 3 critères, effectivement, on peut avoir des évolutions différentes en post-opératoire. Après, pour votre cas précis, ben, vous pouvez comprendre que c'est difficile de vous répondre personnellement parce qu'on n'a absolument pas les éléments en main pour vous répondre sur votre dossier médical.
Mais les cas de récidive peuvent exister quand même.
Oui, mais... oui, les récidives peuvent exister. Elles sont rares parce que compte tenu du nombre de canaux carpiens opérés régulièrement et le nombre de récidives, c'est minime le nombre de récidives par rapport à... Il y a 80 000 canaux carpiens opérés par an en France. Le nombre de récidives, ça se compte en dizaines, en centaines. Donc c'est vraiment minime. Après, il y a énormément de raisons pour les récidives. Il n'y a pas une raison particulière. Donc c'est extrêmement difficile de donner comme ça, de façon très globale, une réponse très précise sur une possible récidive qui malheureusement peut exister mais qui heureusement sont rares.
Sur ces 80 000 opérations par an en France, c'est à peu près 2 à 3 % de récidive. D'accord ? Et quand on parle de récidive, c'est pas la même chose que la persistance d'une douleur après l'opération. C'est-à-dire que vous avez des opérations, vous faites opérer et puis la douleur persiste après l'opération. Alors là, on peut se demander si un, le diagnostic a été bien fait ou si l'opération a été bien faite. Après, si vous avez une douleur qui s'améliore après l'opération, puis qui réapparaît quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, ou alors une douleur qui est différente de la douleur que vous aviez avant l'opération, c'est une récidive vraie. Et là, on est dans ces 2 à 3 % qui peuvent être effectivement plurifactoriels, soit une chirurgie qui n'a pas été complète au niveau de la libération nerveuse, soit le nerf qui était trop abîmé initialement avec des lésions trop importantes à l'intérieur, soit des authentiques récidives de sténose au niveau du canal carpien, c'est décrit, c'est-à-dire le ligament qui se reforme et qui vient recomprimer le nerf.
Il joue avec nos nerfs, donc parfois ce ligament. si j'ai bien compris.
Je ne sais pas s'il faut que je relève.
Non, ne relevez non. pas.
Je vais me permettre de reposer une autre question, si vous le voulez bien. C'est vrai que je suis un petit peu soucieux sur l'évolution de mon bras gauche parce qu'on m'a diagnostiqué les mêmes problèmes. Autant vous dire que maintenant, je réfléchis un petit peu, savoir si je dois de nouveau subir les mêmes interventions. J'avoue que je reste un petit peu sceptique et je ne sais pas trop quoi faire. Donc, j'ai écouté un petit peu, avec beaucoup d'attention, vos conseils. J'avoue, j'aurais aimé sortir de cette salle en me disant, je vais peut-être enfin être soulagé, mais allez-vous me trouver la solution ?
Alors, je pense que la solution, compte tenu de la complexité du problème, c'est qu'on vous voit en consultation pour, avec l'ensemble du dossier, l'ensemble de l'examen clinique, pour faire de façon précise le diagnostic et discuter également de tout ce qui peut se passer à côté. Parce que il y a des tableaux qui sont un peu plus, je dirais, typiques, plus simples, et des tableaux plus compliqués. Donc, je pense que le plus simple, ça serait ça, quoi.
Voilà, monsieur. On a essayé de répondre du mieux, mais c'est vrai que sans les éléments, c'est compliqué, évidemment, vous pouvez comprendre. Madame ?
Vous avez parlé du canal carpien. Est-ce qu'il peut exister ce même genre de problème, mais au pied ?
Oui, vous pouvez avoir. Alors, le canal carpien rentre dans le grand ensemble de pathologies des syndromes canalaires. C'est-à-dire c'est partout où vous avez un nerf qui passe et qui est comprimé par soit de l'os, soit des muscles, soit des tendons. Et donc, vous pouvez avoir également des pathologies canalaires au niveau des membres inférieurs qui sont beaucoup moins fréquents, mais qui peuvent exister. Vous en avez d'autres également au niveau du membre supérieur, principalement au niveau du nerf ulnaire et du nerf radial, mais là au niveau du coude et non pas au niveau du poignet.
Madame ?
Oui, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Après un diagnostic suite à un électromyogramme, pardon, les symptômes ont disparu pendant 7-8 ans et réapparaissent maintenant. Pourquoi ?
Alors, on a vu que le canal carpien, quoi, la symptomatologie, était due à la compression du nerf dans le canal carpien pour des raisons qui étaient dites idiopathiques, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause. Il y a deux réponses possibles à votre question. Premièrement, vous avez fait l'électromyogramme, vous avez effectivement un canal carpien, et puis pour une raison inconnue, il y a eu une diminution de la pression à l'intérieur de votre canal carpien, et finalement c'est passé tout seul, hein, parce que vous avez passé un cap, et voilà. La deuxième possibilité, c'est que l'électromyogramme ait conclu un peu à tort un canal carpien.
Ou alors, si ça a été efficace sur la diminution des symptômes, vous pouvez refaire un électromyogramme, vous aurez moins mal.
Je voudrais quand même préciser que, bon, à l'époque où ça a été diagnostiqué, je travaillais sur clavier 7 heures par jour. Donc, j'ai pensé que, effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, que ça provenait de là. J'ai changé d'emploi, je n'étais plus sur clavier. J'ai pensé que, effectivement, ça avait amélioré mon état. Mais bon, ça réapparaît maintenant, alors que je ne travaille plus sur clavier.
Alors, peut-être. Mais maintenant, vous avez peut-être un canal carpien complètement idiopathique et plus dû à cette cause de travail sur clavier. Mais il faut faire un électromyogramme, et bien entendu on opère les gens qui ont une concordance entre la clinique et l'électromyogramme. On n'opère pas des électromyogrammes.
Oui, je reviens vers vous. Je vous passe devant, monsieur, pardon.
Lorsque le diagnostic est posé, vous conseillez plutôt directement l'opération ou alors quand même une infiltration d'abord, attendre et faire une opération plus tard?
Tout dépend de la gravité du canal carpien. Si on a un canal carpien avec des signes déjà de gravité clinique ou à l'électromyogramme, il ne faut pas proposer d'infiltration puisqu'on sait que l'infiltration n'aura qu'un effet temporaire et qu'on va quand même aller vers l'aggravation des lésions puisqu'on sait que les lésions les plus graves sont les plus longues et les plus difficiles à récupérer, même après la chirurgie. Donc si vous avez un canal carpien qui est débutant avec de votre côté une symptomatologie peu gênante où vous ne vous réveillez pas toutes les nuits mais c'est une fois de temps en temps et qu'il n'y a aucun signe de gravité, bien entendu, on peut proposer l'infiltration pour passer un cap mais tout en sachant bien qu'il y a un risque de récidive qui peut être très précoce Mais après, ce n'est pas non plus complètement illogique de proposer une intervention si vous ne voulez pas entendre parler d'infiltration ou si finalement on a des signes de gravité plus nets.
Monsieur ?
Oui, est-ce que le laser est utilisé pour l'intervention chirurgicale ?
Non. Alors qu'est-ce que vous entendez par le laser ?
Pour l'opération à la place du cutter.
Du couteau ? Non,
du bistouri. On coupait avec le laser, je ne sais pas, c'est une question peut-être idiote, mais bon.
Non, non, les deux grandes techniques sont celles dont je vous ai parlé. C'est on ouvre avec un bistouri classique ou avec le système sous endoscopie où finalement c'est un petit bistouri qui sort, mais on coupe avec un bistouri.
Le laser est très très peu utilisé en chirurgie. On l'utilise un tout petit peu dans certaines tumeurs, mais globalement c'est assez exceptionnel.
D'autres questions ? Profitez-en, je vais venir vers vous, madame. Pardon.
Vous avez parlé qu'il pouvait y avoir de l'algodystrophie. S'il jamais il y en a, comment est-ce que cela se soigne ?
Alors, on n'est plus trop dans le canal carpien. C'est un peu le problème de l'algodystrophie, c'est qu'on ne sait pas chez qui elle vient et qu'on n'a pas vraiment de traitement miracle. C'est un panel de traitements. On a la vitamine C qui diminue de façon assez nette les risques et la gravité des symptômes. Après, si on a de l'algodystrophie, c'est un mélange de rééducation, de traitement antalgique. Voilà. Mais il n'y a pas que le canal carpien qui peut donner de l'algodystrophie. Et on en guérit toujours. Le but est d'avoir le moins de séquelles possible.
D'autres questions ? Alors, on va vous emmener un micro, madame.
Depuis combien d'années traite-t-on le canal carpien ? Parce qu'on en entend beaucoup parler depuis quelques années, mais on a l'impression que ça n'existait pas, on ne connaissait pas ça avant.
Bien avant qu'on soit nous-mêmes chirurgiens. J'ai pas l'article Princeps en tête pour la première description d'une chirurgie du canal carpien, mais ça fait des dizaines d'années. Alors effectivement, il y a une augmentation du nombre de canal carpien opérés, en particulier en France et probablement dans les pays occidentaux, dû à probablement deux facteurs, et encore une fois, il n'y a pas de vérité scientifique si on veut parler comme ça, probablement dû à deux facteurs. Un, effectivement, les conditions professionnelles qui doivent évoluer, et puis deux, le diagnostic. C'est-à-dire que, comme on a essayé de vous l'expliquer, le canal carpien, ça entraîne des gènes importants, des douleurs importantes, mais je pense qu'au Moyen-Âge, ceux qui avaient un canal carpien, ils le toléraient, ils faisaient avec, et puis ça passait à peu près outre. Alors que c'est vrai qu'on a décrit, par exemple, des évacuations d'hématomes extraduraux chez les Égyptiens, parce qu'ils se sont bien rendus compte que s'ils n'opéraient pas, la personne mourrait. Donc c'est vrai que c'est probablement une chirurgie qui date de ce siècle.
Il y a un critère important qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le motif de consultation, c'est le fourmillement et l'engourdissement. Donc ça, c'est ce qui gêne les patients. Finalement, la sensibilité, les troubles de la sensibilité, ça gêne un peu moins les gens. Donc c'est vrai que les gens viennent nous voir au moment où ils ont mal, au moment où ils sont réveillés la nuit, et finalement laissent peut-être un peu traîner les choses une fois qu'ils sont moins gênés par ces fourmillements, par ces engourdissements, ce qui correspond à une atteinte plus sévère. Mais il y a certainement de nombreuses années, effectivement, les gens passaient cette phase douloureuse-là et vivaient avec.
Puis on les opérait plus tardivement, parce que les gens avaient attendu plus longtemps, donc on avait des moins bons résultats avec la chirurgie. Donc finalement, il y a 30-40 ans, on disait le canal carpien, ça ne sert à rien de se faire opérer, parce que ça ne marche pas. Donc maintenant, on les opère beaucoup plus précocement parce qu'on a des outils diagnostiques également qui sont plus performants. Il y a une demande fonctionnelle de la part des gens qui veulent ne plus avoir ces fourmillements. Donc tout ça fait qu'on en opère beaucoup plus pour donc beaucoup de raisons.
Justement, docteur Frélon, plus le problème est diagnostiqué tôt, plus il est soigné tôt, plus moins on souffre en fait, plus la réparation est rapide.
il n'y a pas de lien entre la souffrance, donc la symptomatologie clinique et la gravité du canal carpien. Et généralement, c'est même l'inverse, c'est-à-dire les canaux carpiens débutants sont les plus mal tolérés. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que plus la compression du nerf est prolongée, plus le nerf va souffrir longtemps, plus les lésions du nerf vont être importantes et plus la récupération va être lente. Donc on récupère très rapidement des fourmillements la nuit parce que ça correspond à des lésions minimes au niveau du nerf. On récupère beaucoup moins des lésions de manque de sensibilité et de perte musculaire parce que ça correspond à des lésions beaucoup plus sévères. Donc quand on a un canal carpien, à moins d'avoir un stade extrêmement précoce où quelqu'un peut proposer une infiltration, il faut envisager une intervention. Il n'y a rien d'urgence. Mais il faut l'envisager au début, pas moins à la fin, même si on a quand même des bons résultats sur les formes tardives pour d'autres raisons.
D'accord.
Je voulais savoir pourquoi on peut arriver à expliquer pourquoi on ressent surtout la nuit et pas le jour.
Alors dans la première partie de la présentation, à un moment donné, j'expliquais que c'était... le fait de le ressentir plus la nuit que le jour survenait lors du début de l'évolution du syndrome du canal carpien. Et ça pourquoi ? Parce que la symptomatologie est directement liée à l'augmentation de la pression dans le canal carpien et donc de la compression du nerf médian. Et au début, cette augmentation de pression a lieu préférentiellement la nuit, puisque c'est la nuit que lorsqu'on est allongé, il y a de l'œdème qui se forme dans tout le corps et dans le canal carpien. Et cet œdème, donc cette pression supplémentaire dans le canal carpien, survient effectivement à la fin de la nuit, vers 4 à 6 heures du matin. Et donc c'est là où il y a le plus de pression quasi physiologiquement dans le canal carpien. Donc pour peu que ça soit, qu'il y ait un petit peu moins de place, et c'est là où vous allez ressentir les symptômes la nuit.
Qui a une question ? Oui, madame ?
S'il y a une présence de syndrome de Raynaud, est-ce qu'on peut opérer le canal carpien ?
Oui.
Alors, avant toute chose, le syndrome de Raynaud, vous nous expliquez un petit peu, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à une conférence précédente, puisqu'on l'a déjà évoqué ici, mais voilà. En deux mots, hein, c'est pas, puisque ce n'est pas la thématique, mais juste pour resituer. Voilà.
Alors le syndrome de Raynaud, ça n'a rien à voir évidemment avec le syndrome du canal carpien. Le syndrome de Raynaud, ça correspond en fait à un problème plutôt circulatoire et les gens se plaignent d'avoir les extrémités froides et une des phases importantes du diagnostic du syndrome de Raynaud, c'est la phase blanche. Donc les gens, en fait, ça correspond uniquement à un problème vasculaire mais très périphérique, très distal. Donc il n'y a pas de... aucun problème.
Merci pour cette précision, docteur. Question là-bas, et puis je viens vers vous après, monsieur.
Actuellement, sur Poitiers, les temps d'attente sont longs pour les opérations ou...
Bah oui, mais...
Ah, on se demandait qui allait poser la question. Vous avez remarqué que j'avais évité de la poser. Hein. Allez, on va essayer de jouer 6 mois, 8 mois.
Oh, non. Non, ça dépend où est-ce que vous faites opérer, mais je crois qu'il n'y a pas un délai d'attente valable pour tout le monde. En tant que généraliste, c'est aussi nous qui évaluons, entre guillemets, nos patients. Et réellement, quand il y a besoin d'une prise en charge rapide, il faut que nous, on décroche notre téléphone et les patients sont pris en charge rapidement. Je crois qu'il n'y a, pas véritablement une bonne réponse. Mais quand il y a besoin d'une prise en charge rapide, c'est possible sur Poitiers, il n'y a pas de problème.
Et puis, effectivement, comme on l'a précédemment évoqué, c'est rarement une prise en charge en urgence, en fait, le syndrome du canal carpien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, c'est ce que le docteur Frélon expliquait, il ne faut pas laisser traîner, il ne faut pas faire l'autruche. Par contre, il y a rarement nécessité d'opérer dans les 10 jours, 15 jours après le diagnostic. Donc, effectivement, il y a quelques cas où il faut se dépêcher, il faut aller relativement rapidement, et ça se compte souvent en jours ou en semaines. Et puis, dans la plupart des cas, il n'y a pas non plus d'urgence à envisager une opération dans les semaines qui viennent.
C'est peut-être dans de 2 mois ou dans de 6 mois, quoi, voilà.
Globalement, on est plus proche du mois ou du 2 mois. Ouais.
Ok, monsieur.
Pour le diagnostic, est-ce que c'est le médecin généraliste qui fait l'électromyogramme ou est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste?
Alors non, ce n'est pas les généralistes qui font les électromyogrammes, ce sont les neurologues. Donc à partir du moment où nous, on a une suspicion, même un diagnostic clinique, on demande à nos confrères neurologues de faire l'électromyogramme. Et au vu de l'électromyogramme, on adresse nos patients aux spécialistes pour la prise en charge chirurgicale, souvent.
Une autre question ? C'est calme. Où on en est de la progression de la recherche et de l'évolution du traitement ? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont là ? On essaie de trouver des solutions pour améliorer, pour faciliter le traitement, l'intervention, etc. Est-ce qu'il y a une évolution en matière de traitement ?
Alors, il y a eu une évolution les dernières années par rapport au traitement chirurgical, avec notamment l'endoscopie, qui avait pour but, entre guillemets, de diminuer la durée d'arrêt de travail et avoir une reprise plus précoce, qui finalement s'est avérée peu concluante puisque les suites sont assez identiques à la chirurgie à ciel ouvert. Je pense qu'étant donné qu'on a essentiellement de formes idiopathiques, avec le tableau le plus typique étant la femme de 50 ans, il y a des facteurs hormonaux qui sont très fortement suspectés. Et il est clair que le jour où on comprendra exactement ce qui se passe d'un point de vue hormonal, mais donc plus général, on aura des outils thérapeutiques autres que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de grande modification dans la prise en charge.
Comme le disait Morgane dans sa présentation, le principal débat qu'il y a actuellement sur la prise en charge du canal carpien, la prise en charge chirurgicale, c'est l'intérêt de l'endoscopie par rapport à de la chirurgie à ciel ouvert. Et donc ça fait là par contre quasiment 20 ans que ça existe. La possibilité de faire une chirurgie en endoscopie par rapport à une chirurgie conventionnelle à ciel ouvert, le débat a toujours lieu. Actuellement, il n'y a pas été montré d'avantage significatif pour le patient d'envisager une chirurgie par endoscopie. Donc pour l'instant, c'est le principal débat. Après, effectivement, il y a des recherches, mais pas extrêmement. Sur la prise en charge, il n'y a pas de grands progrès probablement à envisager dans les années qui viennent.
Je suis désolé, je vais encore vous ennuyer un petit peu. Est-ce qu'on a obligation de repasser par la phase départ, j'allais dire, de repasser par le généraliste et le neurologue, si on a déjà eu le diagnostic, entre autres pour ma main gauche ? Ou est-ce qu'on peut passer directement à la phase finale, si je puis me permettre ?
Là, on en revient effectivement à du cas particulier, mais vous me parlez de votre bras gauche, c'est le bras qui a été opéré ?
Non,
c'est le bras droit. Là, effectivement, retour à la case départ.
Madame.
Oui, est-ce que les traitements hormonaux peuvent retarder le canal carpien ?
Il n'y a aucun travail scientifique ou validation scientifique sur ce point. A priori, non, il n'y a pas de lien. Dans un sens ou dans un autre ?
Vous avez dit que les deux mains pouvaient être atteintes en même temps. Il y a un délai à attendre entre les deux opérations. Qu'est-ce que vous préconisez ?
En règle générale, on attend un minimum de 6 semaines pour justement voir comment se passent notamment les douleurs dans le talon de la main qui sont tout le temps présentes. Donc voir comment ça se passe. Si les douleurs sont vraiment très importante et qu'on est obligé d'attendre un petit peu plus. Le but étant d'éviter d'avoir les deux mains. Voilà. Donc ça dépend surtout de la récupération de la première, mais généralement c'est un délai minimum de 6 semaines, puis qu'est le temps de cicatrisation du ligament.
Et puis assez souvent, quand on a des douleurs bilatérales, donc c'est souvent asymétrique, donc on a un côté qui est plus douloureux que l'autre. Et paradoxalement, donc souvent on va utiliser plus la main qui est moins douloureuse, D'accord ? Donc on va se faire opérer du côté qui est le plus douloureux. Jusque-là, vous me suivez ? Et le fait d'aller décomprimer la main qui est la plus douloureuse, on va décharger un petit peu fonctionnellement la main qui était moins douloureuse. Et donc, souvent, on a une amélioration paradoxale du côté contralatéral après avoir opéré le côté qui était le plus symptomatique. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas toujours se précipiter.
Non, il ne faut pas le jeter dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une sensibilisation à partir du moment où on a un nerf qui est comprimé. C'est le même principe sur l'ensemble du bras. On a ce qu'on appelle une épine irritative et ça sensibilise l'ensemble des autres nerfs du bras et parfois même du bras contralatéral à la moindre compression. Donc c'est vrai qu'une compression qui est très minime peut devenir très symptomatique parce qu'on a le premier canal carpien. Après s'être fait opérer le premier canal carpien, on peut finalement se retrouver dans un tableau quasiment normal et puis avoir de symptomatologie. Mais après, justement, il ne faut pas... D'où l'intérêt également de revoir le patient après la première chirurgie pour s'assurer qu'il y a toujours l'indication également d'opérer le deuxième côté.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Est-ce qu'il y a des cas où ça peut passer tout seul, sans opération, sans infiltration ? Avec le temps, est-ce que ça peut disparaître ?
Si on est dans un cas où ce n'est pas idiopathique et qu'il y a un facteur favorisant et qu'on arrête ce facteur favorisant, oui, ça peut passer tout seul. C'est-à-dire que c'est tout à fait le cas de la grossesse où en fin de grossesse, au cours du troisième trimestre, les femmes, généralement, ont des œdèmes périphériques et peuvent avoir une symptomatologie de canal carpien. Normalement, dans la majorité des cas, l'accouchement permet de guérir, entre guillemets, le canal carpien. C'est pareil si on a un facteur favorisant et qu'on va arrêter. Après, si c'est une forme entre guillemets, sans facteur favorisant, ou si au contraire, il y a un réel facteur, un kyste ou quelque chose qui comprime directement le nerf, là, ça ne passera pas tout seul. Ou alors, le piège, c'est qu'on ne passe plus de la symptomatologie des fourmillements, mais qu'on n'ait plus de symptômes, mais qu'on n'ait plus de sensibilité. Ça, c'est également le piège, parce qu'on ne s'en rend pas trop compte.
Merci.
Est-ce qu'un traitement ostéopathique peut soulager la douleur ?
C'est pas là, je ne peux pas vous donner de réponse parce que soulager la douleur, il faut d'abord savoir de quelle douleur on parle. Oui, mais l'endormissement de la main est un symptôme. L'endormissement est un symptôme. L'engourdissement, oui. C'est un symptôme. L'important dans notre démarche de soins, c'est de réellement faire le lien entre le symptôme que vous ressentez et sa cause. Et pour traiter, pour être thérapeutique, il faut d'abord avoir identifié la cause. Donc, c'est une réponse de Normand, vous dire oui ou vous dire non. L'étape préliminaire, c'est d'avoir identifié la cause.
Faut bien comprendre que le nerf, il part de la moelle épinière, donc du cou, et il va jusque dans la main. Donc, sur tout le trajet du nerf, tant qu'on reste sur le nerf médian et qu'on le comprime, quel que soit le niveau où on va le comprimer, ça donnera à la fin au niveau de la main la même symptomatologie. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un examen clinique bien détaillé pour essayer de bien localiser le problème, de faire un électromyogramme pour être sûr que le nerf est comprimé au niveau du canal carpien et à partir de tout ça, ça permet d'orienter vers la bonne thérapeutique.
Puis un autre argument, c'est qu'il existe d'autres pathologies neurologiques qui peuvent donner des symptômes douloureux également du nerf, avec d'autres maladies favorisantes. Donc il faut véritablement, je crois, refaire le point complet sur votre situation pour être sûr de ne pas passer à côté d'une cause plus générale.
Oui, je pense que c'est clair. Je pense qu'il faut effectivement reconsulter, monsieur. Et maintenant qu'on sait qu'il y a des délais qui sont courts, je vous conseille de prendre rendez-vous tout de suite. Est-ce que vous avez des questions encore à poser ? Profitez-en. La dernière, madame ?
Alors, bon, ça occasionne des douleurs au niveau de la main, ça, bien sûr. Est-ce que ça peut aussi occasionner des douleurs ? Vous l'avez peut-être dit, hein, je m'excuse, mais est-ce que ça peut occasionner des douleurs ailleurs au niveau du bras ?
Oui, ça peut donner des douleurs dans l'ensemble du bras par le même principe que celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la compression du nerf fait office d'épine irritative et sensibilise l'ensemble des nerfs du bras. Donc,
c'est tout bon pour ce soir, apparemment. Je voudrais que vous, vous applaudissiez des deux mains. Le docteur Samuel Douteau, le docteur Morgane Frélon et le docteur Sarah Guilloton Autureau qui étaient avec nous ce soir. Merci à eux, merci à l'organisation au CHU, à l'Espace Mendès France. Merci également à l'équipe technique, au public, à vous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous pouvez réécouter les interventions de ce soir sur les sites du CHU et de l'Espace Mendès France, puisque tout a été enregistré. C'est pour ça qu'il y avait les micros qui nous permettaient d'enregistrer, effectivement, et qui vont resservir. Si vous y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, vous allez pouvoir les réécouter. Pensez bien à remplir le formulaire d'évaluation, parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il est très très important, il nous permet de corriger, de faire des choses, d'améliorer encore ces pôles info santé. Et puis on va vous donner rendez-vous pour le prochain, il aura lieu le 16 février, et il sera consacré à la médecine alternative. Et puis rendez-vous aussi le 5 avril avec un autre sujet qui sera la tuberculose. Je vous souhaite une très belle soirée, merci de votre présence.